Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans le carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présentée par les radios associatives qui vous proposent au sommaire cette semaine. Les manifestations contre la réforme des retraites se poursuivent. Radio Pays d'Hérault était dans le cortège à Béziers jeudi. Les éoliennes de Bernag sur les hauteurs de l'Audève dans l'Hérault ont repris du service à la veille de Noël. Mais ce n'est pas un cadeau pour leurs détracteurs. Radio L'Audève a rencontré une porte-parole du collectif 3412 qui lutte pour leur démantèlement depuis plus de 10 ans. Le centre hospitalier d'Auch dans le Gers pourrait bientôt ne plus être équipé de scanners et d'IRM. Gascogne FM a recueilli la réaction de la présidente de la commission médicale de l'établissement. Les fêtes, c'est fini, mais pas l'épidémie de gastro-entérite qui se propage dans le sud et notamment en Occitanie. 48 FM a recueilli les conseils de Philippe Laune, pharmacien à Mende en Lozère. Nous irons aussi dans le petit village de Vébron, toujours en Lozère, où Christelle, Nicolas et Sylvestre ont ouvert une épicerie associative, la Choppa. Quelle place pour la femme dans la création artistique? Radio Aviva a posé la question aux responsables de musées ou festivals montpelliérains à l'annonce de la rentrée culturelle. Et puis du cinéma, pour terminer ce journal, connaissez-vous le Screen X? C'est une technologie qui vient de Corée. Radio Grille Ouverte nous expliquera tout en fin de ce journal. Bienvenue, c'est le carnet de région, l'actualité en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, présenté par les radios associatives de la région. Près de 5000 manifestants, selon la police, 10 000 selon la CGT, ont défilé dans les rues de Béziers jeudi matin. C'était le 36e jour de protestation contre la réforme des retraites et la mobilisation a été quasiment la même, si ce n'est plus forte qu'au premier jour dans la cité bitéroise. Robert Martin de Radio Pays d'Hérault était sur place, il a tendu le micro aux manifestants. Avec une question, jusqu'où sont-ils prêts à aller pour défendre leur retraite?
Patrice Sifflet, qui suis le président de l'Union départementale des retraités et forces ouvrières et secrétaire adjoint de l'UL de Béziers. Depuis le début, nous sommes contre la contre-réforme de retraite par points. Ça, c'est clair. Parce que cette contre-réforme, c'est simple, c'est baisser de 30% les pensions et les retraites. C'est la baisse continue, c'est la fin des régimes spéciaux qui ont été créés quand même il y a des années, bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est inacceptable. Et puis, c'est la prise en main par le gouvernement de tout notre système de retraite. Et ça, nous sommes pour le paritarisme, toujours. C'est nous qui avons créé l'ARCO et l'ARGIC. On va quand même pas se laisser faire. Et je peux vous dire une chose, on ira jusqu'au bout. C'est rare pour Force Ouvrière de dire des choses comme ça, mais nous irons jusqu'au bout. Et regardez, nos camarades sont avec nous, parce que là, on voit qu'il y a une mobilisation, y compris de nos troupes, et c'est pas une vraie habitude chez nous de sortir dans la rue quand même. Hein. Et bien là, maintenant, Force Ouvrière est partout dans toute la France dans la rue. Et on ne cessera pas faire.
Patricia Barbazinge, secrétaire générale de l'Union locale CGT de Béziers. Il pense peut-être qu'on va s'arrêter comme ça, mais il n'en est pas question. Nous, on va continuer jusqu'au retrait du projet de loi. Et aujourd'hui, la mobilisation après 35 ou 36 ou 37, je ne sais plus, jours de conflit, eh ben, elle est toujours là. Et les gens, ils n'acceptent pas un projet de réforme qui va faire baisser le niveau des pensions, qui va les faire travailler plus longtemps, et avec toutes les incertitudes qu'il y a dans ce projet, alors qu'on a un système de retraite qui est aujourd'hui, s'il ne donne pas satisfaction, en tout cas, est juste, solidaire et qu'on peut améliorer de façon tout à fait possible. Alors l'âge pivot, c'est un peu, je dirais, l'arbre qui cache la forêt. Hein. Les organisations syndicales qui aujourd'hui sont à l'initiative de ce mouvement social, la CGT, FO, Solidaire, FSU et les organisations de jeunesse, elles sont largement majoritaires dans le paysage syndical et dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, la division syndicale, certes, c'est une arme du gouvernement, ça l'a toujours été. Hein. On n'est pas naïf, mais en même temps, il faut que voilà, les salariés, se pose des questions sur ce que où veulent les amener certaines organisations syndicales, c'est sûr.
Mardi, alors que les négociations reprenaient au niveau national, près d'un millier de manifestants avaient déjà défilé au départ de la gare Saint-Roch à Montpellier pour demander le retrait du projet. Sur les hauteurs de l'Audève dans l'Hérault, sur le massif de l'Escandorgue, les éoliennes de Bernag refonctionnent depuis le 24 décembre dernier. Elles avaient dû s'arrêter l'été dernier à la suite d'une décision de justice après l'invalidation de leur permis de construire. Marjolaine Villemigraine, porte-parole du collectif 3412 qui lutte pour leur démantèlement depuis maintenant plus de 10 ans, réagit à cette reprise du parc éolien.
Alors ces éoliennes de Berninck, il faut dire qu'elles sont construites illégalement puisque les promoteurs éoliens l'ont construite avant d'avoir définitivement un permis. Et puis on leur a refusé. Donc c'était un permis de construire à l'époque qu'on leur a refusé. Donc il y a eu une procédure qui a donc défini qu'il fallait arrêter les éoliennes tant qu'ils n'avaient pas un nouveau permis. Maintenant on n'appelle plus ça un permis, on appelle ça une autorisation environnementale. C'est la DREAL qui l'accorde, c'est plus dans le code de l'urbanisme. Oui. On est dans l'environnement puisque c'est particulier, c'est les ICPE, les éoliennes. Alors donc il y a eu une décision en cours d'appel, disant qu'ils devaient arrêter les éoliennes tant qu'ils n'avaient pas de nouveau permis. Et ils ont fait une demande de sursis à exécution, c'est-à-dire ils ont demandé au Conseil d'État s'ils pouvaient quand même, pour des raisons majeures, sans doute des raisons financières pour eux, remettre en route les éoliennes, en attendant de voir s'ils allaient avoir une autorisation environnementale. Donc maintenant, la balle est dans le camp du préfet, puisque c'est le préfet, c'est la DREAL qui instruit, mais c'est le préfet qui réaccorde ou pas cette autorisation. Et entre-temps, nous n'avons fait... Notre association du collectif a fait un recours pour le démantèlement de ces éoliennes, puisqu'elles sont illégales. Et nous verrons bien si le juge, cette fois-ci du civil, nous accordera le démantèlement des éoliennes. C'est la marche à suivre quand un permis a été annulé.
Oui, mais pour vous, c'est déjà une petite défaite de voir ces éoliennes retourner depuis quelques jours.
Oui, parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant « Ah, c'est dommage, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai passé un mauvais Noël parce qu'ils ont mis en route le 24 décembre. On les revoit tourner, quel dommage. Ils étaient très contents que les éoliennes soient arrêtées. Beaucoup de gens qui sont même dans les quartiers de l'Audève, Saint-Martin, les gens sont dérangés par les éoliennes de Berninck.
La décision du préfet pour savoir le maintien ou l'arrêt du fonctionnement de ces éoliennes devrait intervenir au plus tard à la fin du mois de mars prochain. Il y a en tout 7 éoliennes sur le parc. Le centre hospitalier d'Auch dans le Gers pourrait bientôt ne plus être équipé de scanners et d'IRM, imagerie par résonance magnétique. Le contrat de location avec le groupement d'intérêt économique public-privé est arrivé à échéance. Et pour toute prise de décision, c'est l'accord à l'unanimité qui prévaut. Cette situation révolte le personnel du service imagerie et plus généralement le personnel de l'hôpital. Ils réclament un matériel 100% public. Dans ce dossier qui anime les débats gersois depuis plusieurs mois, une énième réunion de concertation s'est tenue jeudi 12 décembre à la mairie d'Auch. À la sortie de cette concertation, Dominique Afonso de Gascogne FM a recueilli la réaction du docteur Véronique Lejeune Saada, présidente de la commission médicale de l'établissement OCIT.
La conclusion principale de cette intervention, c'est bien de dire que ce GIE, c'est-à-dire ce partage d'une machine entre trois partenaires, dysfonctionne. Elle génère des risques qui sont déjà présents. D'une part, l'impossibilité d'acquérir des machines modernes, puisqu'une partie des membres du GIE le refuse, et ce depuis plus de 2 ans. Le problème de partage du temps des machines entre ce qui est de la médecine programmée et de la médecine d'urgence et de permanence des soins, qui fait que, en l'état, dans 50% du temps, le scanner de l'hôpital d'Auch n'accueille pas les urgences non extrêmes parce qu'il est occupé par des vacations libérales. Enfin, il y a une grande carence en radiologie dans le Gers puisque 2 cabinets de radiologie sont susceptibles de fermer à très court terme et notamment les 20% de scanners qui étaient exploités par la clinique ne sont actuellement plus réalisés faute de médecins. Il a été impossible au GIE de trouver un accord pour que pendant ces 20%, un médecin, vienne faire tourner les machines alors que les patients attendent des mois pour avoir rendez-vous. Tout ça nous montre bien que ce mode de fonctionnement est bloquant pour la permanence des soins, bloquant pour la population et qu'il faut trouver un autre moyen de faire de l'imagerie et posséder pour l'hôpital d'Auch une machine 100% publique qui soit 24h sur 24 disponible pour cette permanence des soins.
Le docteur Véronique Lejeune Saada, présidente de la commission médicale de l'hôpital d'Auch dans le Gers, au sujet du dossier brûlant du scanner de l'établissement hospitalier qui est à ce jour toujours en attente d'une décision de l'Agence régionale de santé Occitanie. On reste dans le domaine de la santé avec l'épidémie de gastro-entérite qui se propage dans le sud. Le réseau de recherche et de veille sanitaire en soins primaires indique une forte propagation de la maladie en Occitanie. Un pic d'épidémie important mais pas inhabituel selon Philippe Laune, pharmacien à Mende en Lozère. Il constate une augmentation des cas de gastro-entérite en ce moment et donne quelques conseils au micro de Léa Jacquet de 48 FM.
Alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter particulièrement, il y a des mesures à prendre, hein, mesures classiques, on se lave bien les mains régulièrement. Alors quand ça arrive, ben, on pense à boire beaucoup, puisqu'on a une grosse déperdition d'eau. On se méfie beaucoup au niveau des personnes âgées et des enfants, qui sont les populations sensibles, par rapport à un phénomène de déshydratation essentiellement. Et puis voilà, on prend les mesures habituelles, il faut laisser passer. Ce sont des gastro-entérites la plupart du temps virales. Donc épisode viral, ça ne dure pas très longtemps, mais ça peut être assez fatigant. Je pense quand même qu'on a un effet d'hyper-protection en fait. C'est-à-dire que comme on désinfecte tout, depuis la naissance jusqu'à l'âge, on désinfecte tout. On a des eaux qui sont des eaux chlorées. Alors on est bien propre partout et on met pas les doigts à la bouche, on met pas, etc., etc. Ce qui est une bonne chose en soi, mais ce qui diminue au global les résistances. Quand vous oubliez, disons, de vous protéger contre des virus ou des bactéries, le jour où vous êtes confronté à ça, vous êtes beaucoup plus sensible.
Autre problématique, la surconsommation d'antibiotiques. Aujourd'hui encore, le problème reste une des priorités de l'Organisation mondiale de la santé. Pour cela, un test a été mis en place depuis janvier en pharmacie. Il permettra de décider si le patient a besoin ou non d'aller chez le médecin et de se voir prescrire des antibiotiques. La culture accessible au plus grand nombre, c'est le credo des différentes structures culturelles de Montpellier et sa métropole. Michel Hiller dirige le musée Fabre. Jean-Paul Montanari est à la tête du Festival international Montpellier Danse et Nicolas Bruyot du Musée d'art contemporain, aussi appelé MOCO. Enfin, Valérie Chevalier est la directrice de l'opéra. Vous allez l'entendre, tous les quatre évoquent la place des femmes dans la création artistique au micro de Raphaël Larcher et de Perla Danan pour Radio Aviva. Et visiblement, il reste encore du chemin à faire. On écoute pour commencer Valérie Chevalier, directrice de l'Opéra Orchestre National de Montpellier.
Nous, c'est un désastre dans notre secteur, dans la musique classique. Il n'y a pas de femmes directrices d'institution. Il y a très peu de femmes metteurs en scène. Quand je dis des femmes metteurs en scène sur des productions à gros budget. Voilà, elles sont cantonnées aux petites productions pour enfants. Il n'y a pas de compositrices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a accès aux compositrices contemporaines, mais toutes les autres ont été effacées de l'histoire de la musique. Si vous prenez tous les bouquins sur l'histoire de la musique, il n'y a pas de femmes. Voilà. Or, il y avait des femmes. Elles servaient de nègres, en fait, aux hommes compositeurs. Et celles qui existaient, on les a niées, quoi. On les a. Donc, je pense qu'il y a justement des musicologues qui vont réécrire une partie de l'histoire de la musique pour pouvoir réintégrer ces femmes.
Ça se présente, Dieu merci, d'une manière très différente dans les arts visuels, puisque par exemple 55%, c'est une moyenne nationale, des étudiants en art sont des étudiantes en art. Ensuite, la proportion se renverse quand il s'agit de rentrer dans le marché. Et je pense que c'est effectivement, on le clame pas parce que ça devrait être une normalité. On base pas notre communication là-dessus parce que je pense que c'est pas un sujet, si vous voulez ce que je veux dire. C'est pas un sujet, c'est juste voilà un état de fait. C'est important aujourd'hui de soutenir aussi les grandes artistes femmes dans cette génération.
Pour
la danse, les choses sont relativement différentes pour la danse contemporaine puisque c'est quasiment un art qui a été inventé par les femmes. Je veux dire, on pense à Marie Wigman, à Martha Graham, à Isadora Duncan qui ont inventé cet art nouveau. Moi seul, le talent des artistes m'intéresse, mais c'est vrai. Catherine Legal, c'est maintenant une tarte à la crème que de dire ça. C'est vrai, Catherine Legal, je fais plus attention au fait que ce soit une femme plutôt qu'un garçon. C'est vrai que j'y fais attention. D'autres n'ont pas cette attention. Moi, je l'ai en tous les cas et j'y suis sensible. Enfin, il faut dire que Montpellier Danse est presque exclusivement composée. L'équipe de Montpellier Danse
est presque exclusivement
composée de filles, donc ça doit aider.
Michel Hiller, dans votre cas, les grands artistes. Alors les grands artistes, bon, c'est vrai qu'il y a une majorité écrasante d'hommes.
Bon, ça, on cherche.
On va pas refaire l'histoire. C'est comme ça.
Des artistes voilà, qui ont été médiatisés.
Voilà, qui ont été médiatisés. Mais il y a quand même eu, et dans des sociétés qui étaient extrêmement difficiles pour une femme, pour percer, il y a quand même eu des exceptions extraordinaires, comme par exemple Artemisia Gentileschi, comme Rosa Carriera au XVIIIe siècle en Italie. Il y a quand même toujours eu, quand on regarde bien, quelques femmes qui ont réussi à s'imposer. Plus largement, plus on avance dans le temps, par exemple avec Berthe Morisot, on a la chance d'avoir ce chef-d'œuvre au musée qui a d'ailleurs été prêté à la rétrospective Berthe Morisot de Paris, au musée d'Orsay. Et en tout cas, Germaine Richier, vous savez qu'elle est décédée dans notre ville en 59, et elle est passée par l'école des Beaux-Arts de Montpellier avant de rejoindre Paris et l'atelier de Bourdelle.
Musée Fabre, Montpellier Danse, Moco et Opéra, les quatre lieux de culture ont un programme relativement fourni en 2020. C'est à retrouver directement sur leur site internet, respectivement muséefabre.montpellier3m.fr, montpellierdanse.com, moco.art et opéra-orchestre-montpellier.fr. Le Screen X est une nouvelle technologie de projection des films qui nous vient de Corée. Une technologie dont le Cinéplanète d'Alès dans le Gard vient de s'équiper avec une salle dédiée à cette expérience de multiprojection qui permet aux spectateurs de vivre une séance de cinéma immersive. L'équipement a été inauguré cette semaine après une période de test pendant les fêtes de fin d'année. C'est la cinquième salle en France à être dotée de cette nouvelle technologie que le directeur du multiplex, Philippe Mercier, nous détaille.
Le Screen X est une technologie qui a un petit peu plus de 2 ans, qui nous vient de Corée. Et c'est une technologie assez révolutionnaire dans l'équipement des salles de cinéma. Donc en fait, on a pris une de nos salles et nous l'avons entièrement transformée en un temps record pour offrir au public alésien dès les vacances de Noël. En Screen X, ça veut dire l'image et associé au son DTSX. Voilà pour le Screen X, ça correspond tout simplement à rajouter sur chaque côté de la salle des écrans avec à chaque fois 2 projecteurs, donc 2 projecteurs à gauche, 2 projecteurs à droite, et en fait ça projette des images sur ces écrans, ce qui permet d'avoir une ambiance vraiment immersive par l'image mais aussi par le son. À souligner que cela concerne que certaines séquences du film choisies par le réalisateur, et ce n'est pas une projection en permanence sur toute la durée du film. Ce sont certaines séquences, les séquences dites à effet, c'est-à-dire les scènes d'action et tout, où on est vraiment en immersion totale. Et ça s'oriente vers les blockbusters et les films vraiment à sensation et à effet. Les images sur les côtés sont légèrement plus sombres que l'écran principal, et ce qui est tout à fait normal, c'est un effet qui est normal puisque c'est par rapport à l'acuité visuelle, puisque c'est uniquement pour envelopper l'image et l'ambiance totale du film. En fait, quand ça va se mettre en route, faut pas s'amuser à regarder à gauche ou à droite parce qu'on va pas avoir vraiment la même sensation, mais on continue à regarder l'écran principal qui est plus lumineux, et ça permet vraiment d'être immergé totalement.
Philippe Mercier, directeur du Cinéplanète d'Alès, au micro d'Yves Defago de Radio Grille Ouverte. Vous l'aurez compris, la plupart des films projetés avec cette technologie Screen X concernent pour l'heure des films grand public avec de nombreux effets spéciaux et spectaculaires. Les films art et essai ne sont pas concernés, tout au moins en l'état. C'est déjà la fin de ce premier carnet de région de l'année. Merci aux radios associatives qui ont aidé à le préparer. Merci aussi aux radios qui le diffuseront. Merci à tous de votre écoute et de votre fidélité. Et à la semaine prochaine.